Chapitre 7. En commençant ce chapitre, nous voyons se manifester à nouveau l'opposition des chefs religieux. Les disciples, accaparés par le travail, comme nous l'a dit le verset 31 du chapitre précédent, n'observaient pas certaines ablutions traditionnelles, ce qui irritait les pharisiens qui montraient un attachement rigoureux à la tradition des anciens. Le Seigneur relève le défi pour le compte des disciples et répond en mettant à nu, allant au fond des choses, la position pharisaïque. C'était des hypocrites, et il le leur dit. L'essence de leur hypocrisie était qu'ils faisaient profession d'un culte consistant en rites extérieurs, alors qu'intérieurement, leur cœur était complètement éloigné. Rien ne compte pour Dieu si le cœur n'est pas droit. Puis, en accomplissant leur rite, ils mettaient de côté le commandement de Dieu pour le remplacer par leur propre tradition. Le Seigneur ne fait pas qu'affirmer cela, mais il en donne la preuve en prenant pour exemple la façon dont ils mettaient de côté le cinquième commandement par leurs règles concernant le corban, c'est-à-dire les choses consacrées au service de Dieu. Sous prétexte de « corban », plus d'un juif se débarrassait de tous ses devoirs légitimes envers ses parents âgés et pauvres. Et il faisait cela avec une apparence de sainteté, car apparemment, n'y avait-il pas plus de piété à consacrer des choses à Dieu plutôt qu'à ses parents? Les choses comprises sous le corban n'étaient pas des choses que Dieu exigeait. S'il en avait été ainsi, ses exigences auraient dû prévaloir. Il y avait des choses qui pouvaient être consacrées à Dieu si on le voulait, tandis que l'obligation de prendre soin de son père et de sa mère était un commandement formel. La tradition pharisaïque permettait à un homme d'utiliser une ordonnance facultative pour éviter d'observer un commandement formel. Ils pouvaient bien essayer de justifier leur tradition avec des arguments fallacieux qui avaient une apparence de piété, mais le Seigneur les accusait d'annuler la parole de Dieu. Ce qui est écrit en Exode 20, verset 12, était pour Jésus, la parole de Dieu. Il n'y a dans ce passage aucune justification pour cette religiosité tatillonne qui refuse le titre de parole de Dieu à la parole écrite. Nous croyons que nous serions en droit de dire que toute tradition humaine, dans les choses de Dieu, va finalement à l'encontre de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Ceux qui sont à l'origine de la tradition n'ont probablement pas une telle pensée, mais l'esprit du mal qui régit tout cela et qui est derrière a précisément cette intention. Ayant démasqué les pharisiens comme étant des hommes dont le cœur était éloigné de Dieu et qui ont osé annuler la parole de Dieu, le Seigneur appelle la foule et proclame publiquement la vérité qui coupe à la racine toute prétention religieuse. L'homme n'est pas souillé par le contact avec les choses extérieures, mais c'est en lui-même que siègent ceux qui souillent. Parole dure que celle-là. Et seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre la recevront. Les disciples l'interrogèrent à ce sujet en particulier, et du verset 18 au verset 23, nous avons l'explication. L'homme est corrompu dans sa nature. Ce qui vient de son cœur même le souille. De son cœur viennent les mauvaises pensées qui deviennent toutes sortes de mauvaises actions. C'est l'acte d'accusation le plus terrible qui ait jamais été prononcé contre la nature humaine. Rien d'étonnant que le cœur du pharisien soit loin de Dieu. Mais quelle chose terrible que des hommes avec un cœur comme celui-là déclarent s'approcher de Dieu et l'adorer. Ces paroles pénétrantes de notre Seigneur coupent à la racine tout orgueil humain et montrent le peu de valeur de toutes les démarches de l'homme sur le plan religieux comme sur le plan politique, quand elles ne s'occupent que de choses extérieures et laissent le cœur de l'homme tel qu'il est. Les disciples ne comprenaient encore ces choses qu'à peine, et l'expérience nous montrera que les chrétiens professants sont très lents à les accepter et à les comprendre de nos jours. Mais nous n'irons pas très loin, sauf si nous les comprenons vraiment. Cependant, c'est une chose de mettre à nu le cœur de l'homme, mais il faut encore autre chose. Il faut faire connaître ce qu'est le cœur de Dieu. C'est ce que va faire le Seigneur comme le montre le reste du chapitre. Il va aux frontières mêmes de ce pays qui abritait tant d'hypocrisie. Et là, il entre en contact avec une pauvre femme des nations qui a le plus grand des besoins. La renommée du Seigneur est parvenue à ses oreilles et elle ne veut pas se voir opposer un refus. Cependant, le Seigneur la met à l'épreuve par sa petite parabole sur le pain des enfants et les chiens. Sa réponse : Oui, Seigneur, car même les chiens sous la table mangent des miettes. Est heureusement exempte d'hypocrisie. En fait, elle dit : Oui, Seigneur, il est vrai que je ne suis pas un enfant du royaume, mais un pauvre chien des nations, sans aucun droit à faire valoir. Pourtant, j'ai confiance qu'il y a assez de puissance en Dieu et assez de bonté dans son cœur pour nourrir un pauvre chien comme moi. Voilà la foi. Matthieu, en vérité, nous dit que le Seigneur l'a appelée une grande foi, et elle le réjouit. Elle apporte à cette femme tout ce que son cœur désire. Sa fille est délivrée. Combien est grand le contraste entre le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. L'un plein de bonté et de grâce, l'autre plein de toutes sortes de mal. Comme c'est heureux pour nous quand, au lieu d'entretenir l'hypocrisie, nous sommes caractérisés par la droiture et la foi. Au verset 31, Jésus retourne à nouveau vers les contrées de la mer de Galilée pour y rencontrer un homme qui est sourd et muet. Condition qui, de façon frappante, symbolisait l'état dans lequel se trouvaient les Juifs. La pauvre femme des nations a eu des oreilles pour entendre, et en conséquence, sa langue s'est déliée et a pu prononcer des paroles de foi. Mais eux sont sourds et n'ont rien à dire. En guérissant cet homme, le Seigneur accomplit certaines actions qui, sans aucun doute, ont un sens symbolique. Il le tire à l'écart, loin des foules, pour s'occuper de lui en particulier. Ses doigts, symbole de l'action divine, touchent ses oreilles. Ce qui vient de sa bouche touche la bouche du muet. C'est ainsi que s'accomplit l'œuvre et le sourd-muet entend et parle tout à la fois. S'il y a des oreilles qui s'ouvrent pour entendre la voix du Seigneur, c'est le fruit de l'action divine qui s'opère en secret. Et si une langue peut prononcer la louange de Dieu ou la parole de Dieu, c'est parce que ce qui vient de sa bouche a été amené en contact avec la nôtre. Rien n'est dit quant à la foi de cet homme. Ce qu'il ressent, il ne peut pas l'exprimer. Et d'autres l'ont amené à Jésus. Cependant, c'est une grâce pleine et sans réserve qui vient à sa rencontre. Encore une fois, c'est un cas où la bonté du cœur de Dieu est manifestée par Jésus. Évidemment, la foule, dans une certaine mesure, est consciente de cela. Et dans leur étonnement, ils confessent : Il fait toutes choses bien. À ce point du récit, ces paroles sont d'autant plus frappantes. Le début du chapitre nous révèle l'homme sous son vrai caractère, et nous trouvons que son cœur est une source d'où ne sort que le mal. Il fait toute chose mal. Le parfait serviteur révèle la bonté du cœur de Dieu. Il fait toute chose bien. Que de motifs nous avons, nous aussi, d'être d'accord avec ce verdict.